Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
L'assouplissement du protocole sanitaire, j'espère qu'il pourra arriver bientôt.
La semaine dernière, il n'en était pas question. Cette fois, Jean-Michel Blanquer ouvre la porte à un assouplissement des mesures très strictes appliquées à l'école.
Les enfants sont finalement moins contaminés et moins contaminants.
Les lendemains difficiles de la crise, économie dans le rouge, entreprises en danger, précarité, les partenaires sociaux réunis à l'Élysée. Le pouvoir d'achat des plus vulnérables a pris un coup.
On tape dans le découvert, quoi. La banquière nous a laissé un peu. Elle a dit, avec tout ce qui s'est passé, je vous autorise un peu plus.
Le gouvernement annonce 40 milliards d'euros pour les secteurs en difficulté.
Dans ce journal également, le rapport du Sénat qui pointe la réaction tardive du gouvernement sur l'incendie du Lubrizol. Souvenez-vous, c'était en septembre dernier.
La piste allemande qui relance l'enquête sur la disparition de la petite Maddy.
Et trois clubs de Ligue 1 au Conseil d'État pour contester l'arrêt du championnat.
Et enfin, le monde du spectacle réuni pour Guy Bedos.
C'était lui qui disait les choses les plus fortes et les plus provocantes et les plus hors de la ligne. Seulement, il avait un génie, c'est qu'il était irrésistiblement drôle.
Jean-Michel Ribes, les obsèques de l'humoriste ont eu lieu aujourd'hui. La bourse de Paris en baisse de 0,2% à 5011 points malgré les annonces de la BCE qui prolonge son plan d'urgence.
Bonsoir et bienvenue à Anissa qui nous donne la couleur du ciel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien, demain, c'est un retour au sec dans le sud hein, qui a connu ces dernières heures quand même des grandes pluies. On y reviendra. Sur le reste du pays, demain, c'est encore très humide. Je vous donne tout le détail à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
A-t-on été trop prudent ? A-t-on eu tort de laisser fermer les écoles aussi longtemps et de limiter à ce point le retour des élèves ? Le discours des autorités est, semble-t-il, en train de changer. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, ouvre la porte désormais à un assouplissement des règles sanitaires. À Victor Delande, après une étude qui a montré que les enfants ne sont finalement pas du tout les bombes virales qu'on imaginait.
Oui, selon une étude réalisée par l'Association française de pédiatrie ambulatoire sur 600 patients de moins de 15 ans en Île-de-France, les enfants sont 2 à 5 fois moins porteurs du virus que les plus grands. Et puis ce ne sont pas des super propagateurs. Les enfants ne sont à l'origine que d'un cluster sur 10. En clair, ce sont plutôt les adultes qui contaminent les enfants et pas l'inverse. Mais pour l'heure, le protocole sanitaire extrêmement strict empêche un retour plus large des enfants à l'école. 22% seulement des élèves du primaire ont pu être accueillis. Et encore que quelques jours par semaine, ça pose évidemment des problèmes d'organisation aux parents qui ont repris le travail. Alors que dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sur ce sujet ? Je lui ai posé la question ce matin, il était en déplacement dans une école de Vincennes.
Rappelons-nous qu'il y a un mois, il a fallu que je me batte beaucoup et il y avait beaucoup de gens pour me dire qu'il ne fallait pas ouvrir les écoles. Aujourd'hui, on me dit qu'il faut aller plus vite et plus loin, il faut assouplir le protocole. Il y a un mois, on me disait qu'il faut un protocole extrêmement strict. Je crois qu'il faut aller au bon rythme. L'assouplissement du protocole sanitaire, j'espère qu'il pourra arriver bientôt. Tout de suite, ce serait trop tôt puisque ça ne fait que 3 semaines que nous avons commencé. Il faut rester prudent par rapport à ces enjeux.
La priorité pour Jean-Michel Blanquer, c'est que toutes les écoles ouvre à nouveau avant la fin du mois de juin. Je rappelle qu'il y a encore 10% des communes en France qui refusent toujours cette réouverture. Et puis le ministre de l'Éducation nationale va soumettre au comité scientifique des allègements au protocole sanitaire dès que possible, peut-être même avant la fin de l'année scolaire, pour que le plus d'enfants possible puissent rapidement reprendre le chemin de l'école.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Aujourd'hui, c'est seulement un quart, moins d'un quart même des élèves qui sont accueillis dans 80% des écoles qui sont ouvertes.
Et cette fois, ils ont été invités physiquement à l'Élysée, non par visioconférence, syndicats et patronats qui plongent encore à l'heure où nous parlons sur les solutions à apporter à la crise.
Et tous les voyants sont en rouge, récession, chômage, pouvoir d'achat. Quelle stratégie pour en sortir ? Carole Ferry, vous suivez la réunion qui est encore en cours.
Oui, en fait, on attendait un discours de Muriel Pénicaud vers 17h30, mais elle n'a toujours pas pris la parole. Alors, ce qu'on sait, c'est que parmi les priorités qu'elle souhaite aborder, il y a la question de l'emploi, en particulier l'emploi des jeunes. 700 000 jeunes sont attendus sur le marché du travail à la rentrée, avec des entreprises qui, pour la plupart, n'ont quasiment pas de visibilité sur l'avenir. Mais le volet prioritaire cet après-midi, c'est celui de l'apprentissage. L'hôtellerie et la restauration sont de gros pourvoyeurs de contrats en apprentissage. Or, beaucoup ont dû mettre leurs jeunes en chômage partiel pendant cette crise et ne savent pas quel sera leur situation en septembre. Et puis il y a surtout tous ces jeunes qui cherchent en ce moment une entreprise pour les accueillir à la rentrée. Mais elles ont bien sûr d'autres priorités actuellement. Alors c'est pour ça que beaucoup de syndicats patronaux demandent des aides pour motiver les entreprises. La prise en charge du salaire la première année par exemple. Ou que les jeunes puissent suivre leur scolarité toute l'année même s'ils n'ont pas de contrat signé en entreprise. Aujourd'hui ils ne peuvent pas rester plus de 3 mois. Ce sont donc toutes ces réponses qui sont attendues à la fin de cette réunion.
Carole Ferry en ligne de l'Élysée. Vous suivez donc cette réunion. on fait le point bien sûr avec vous dès que les annonces arrivent. Le gouvernement qui a par ailleurs dévoilé une troisième version du budget, à nouveau rectifié. 40 milliards d'euros seront affectés au soutien aux secteurs en difficulté comme l'automobile, le tourisme ou l'aéronautique. La dette publique va atteindre 120% du PIB.
La crise, le confinement ont creusé les inégalités et aggravé des situations de précarité. D'ailleurs, plusieurs chiffres le montrent.
Les découverts bancaires en nette hausse, les familles qui reportent les échéances de leur crédit ou qui ne parviennent plus à payer leur loyer. Le pouvoir d'achat des plus fragiles a pris un coup. Reportage à Strasbourg de notre correspondant Arthur Nbaché.
Cet été, d'après Epidémie, les vacances, ce sera ici, Strasbourg, pour la famille de Cindy, maman au foyer, mari électricien, 5 enfants. Idem chez Annabelle, 2 enfants, mari artisan, dans le BTP, des ménages modestes, très touchés financièrement par le confinement.
Pendant le confinement, t'as eu beaucoup plus de dépenses.
Ah ouais, hein.
Les enfants, qui dit les enfants à la maison, on les met pas à la cantine.
Plus qu'ils sont à la maison, plus ils mangeaient, quoi. Ah, ils avaient faim toutes les 2 heures.
La cantine, elle revient quoi? Le ticket, il revient, hop, disons 1,50 €. Tandis que là, c'est tout à fait différent. Hein, parce que pour 1,50 € à la cantine, vous avez quoi? L'entrée, le plat, le dessert.
Tout ce qui est nourriture et tout, on voit là, qu'il y a eu augmentation pendant le confinement. Hein. Pour une barquette de fraises, à 3,49 €. Pour 500 grammes, je trouve que c'est très, très cher qu'avant, on avait pour 1,99 €. Quoi. On tape dans le découvert. Quoi. La banquière nous a laissé un peu. Elle a dit, avec tout ce qui s'est passé, je vous autorise un peu plus. Normalement, j'ai autorisation de 400 €, mais là, je suis à 550.
Autre effet, en l'occurrence spécifique, local de l'épidémie sur le porte-monnaie des familles modestes, la frontière fermée, fini les courses dans les grandes surfaces allemandes, fini les prix allemands très inférieurs, notamment sur certains articles de première nécessité au prix français. Strasbourg, Arthur Nbaché, Europe 1.
Et pour les ménages en difficulté, Bercy va renforcer le dispositif plafonnant les frais bancaires.
Les soignants maintiennent la pression en plein Ségur de la santé. De nouveaux rassemblements ont eu lieu aujourd'hui. Une journée d'action nationale est annoncée d'ores et déjà pour le 16 juin. Ils réclament toujours une revalorisation des salaires.
Les soignants et tous les acteurs de la lutte contre l'épidémie qui seront bien à l'honneur du prochain 14 juillet, une fête nationale complètement réinventé. Pas de défilé cette année sur les Champs-Élysées, mais une cérémonie militaire à la Concorde avec un nombre de participants qui sera limité et des règles bien sûr de distanciation.
Il est 18h07 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
On en vient au dossier Lubrizol. Vous vous souvenez de l'incendie de l'usine Seveso à Rouen le 26 septembre dernier. La commission d'enquête du Sénat a rendu son rapport sur la gestion de cet accident.
Et les sénateurs ne sont pas tendres avec le gouvernement et avec l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Une conclusion, Jean-Gabriel Bourgeois, les risques sanitaires ont été identifiés bien trop tardivement.
Oui, un suivi sanitaire tardif et incomplet, soulignent même les sénateurs. Dans leur conclusion, il leur est impossible de se prononcer sur l'impact sanitaire de la catastrophe du 26 septembre. C'est la politique de prévention des risques industriels déployée depuis 40 ans qu'il faut revoir, estime la commission d'enquête. Autre mauvais point décerné par le Sénat, la communication de crise des pouvoirs publics. Et les mots sont durs, une cacophonie gouvernementale, un langage hasardeux. Pour les sénateurs, vouloir rassurer à tout prix fait perdre de vue l'objectif principal, informer le plus clairement possible et en temps réel. Ce rapport est une nouvelle étape pour les riverains de l'usine, mais 8 mois après l'incendie, Sébastien Duval, fondateur de l'association des sinistrés de Lubrizol, réclame plus que des mots. Il était l'invité d'Europe 1 à la mi-journée.
Il serait nécessaire de faire des analyses réellement indépendantes, pour soit constituer des preuves qui seront utiles dans 10 ans quand le procès aura lieu, soit pour rassurer réellement la population, les touristes, les acteurs économiques.
Les sénateurs n'oublient pas non plus Lubrizol dans leur rapport. L'industriel est le premier fautif pour ne pas avoir mis aux normes ses installations malgré une inspection 18 mois avant la catastrophe.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et le mystère de la disparition de la petite Maddy va-t-il être levé 13 ans après? Un suspect et un appel à témoins. Nous allons en Grande-Bretagne dans un instant dans le journal.
Puis le match s'est joué devant le Conseil d'État. 3 clubs de Ligue 1 contestent le classement figé du championnat.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
C'est un mystère et un mystère qui dure d'ailleurs depuis 13 ans, depuis le printemps 2007 précisément, lorsque la petite Britannique Maddy, 3 ans, a disparu dans une station balnéaire portugaise.
Rebondissement ces dernières heures avec l'identification d'un suspect, un homme allemand de 43 ans, déjà condamné pour pédophilie et qui est aujourd'hui en prison. En Grande-Bretagne, Scotland Yard a lancé un appel à témoins. Élodie Goulet, que vous êtes à Londres et les parents de la petite fille ont réagi aujourd'hui.
Alors c'est plus précisément leur porte-parole, Clarence Mitchell, qui explique que c'est la première fois qu'autant de détails sont donnés sur un suspect. Et il s'exprimait ce matin sur le plateau de BBC Breakfast à propos des parents de la petite fille.
Ils ont simplement besoin de savoir ce qui est arrivé à leur fille, de connaître la vérité. Ils n'ont pas perdu espoir de retrouver Madeleine saine et sauve, malgré les années, et ils n'ont jamais abandonné. Mais ils sont aussi réalistes, et quelle que soit l'issue de l'enquête, ils ont besoin de savoir afin de trouver la paix.
Les parents de la petite Maddie ont décidé de ne pas donner d'interview directe car ils souhaitent que l'attention reste focalisée sur l'enquête. C'est hier soir que Scotland Yard a lancé un appel à témoins publié sur son site internet. L'opération Grunge, qui désigne l'enquête sur la disparition de la petite fille, suit ce suspect allemand depuis 3 ans déjà. La police britannique invite donc désormais toute personne ayant vu ou été en contact avec le suspect de les contacter, offrant une récompense de plus de 22 000 euros pour des informations permettant l'arrestation du coupable.
Élodie Goulesque, correspondante Europe 1 à Londres. En Chine, la commémoration aujourd'hui de la répression de la place Tiananmen il y a 31 ans tourne à l'acte politique. Des milliers de Hongkongais ont bravé les interdictions de se rassembler pour une veillée dans un parc. D'autres ont allumé des bougies. La police a procédé à des arrestations.
Et du foot maintenant au tribunal, Sébastien. Devant le Conseil d'État, précisément, 3 clubs de Ligue 1 contestent les modalités de l'arrêt du championnat.
Les 2 relégués, Amiens et Toulouse, et Lyon, qui a été privé de Coupe d'Europe. Leurs 3 recours ont été examinés. Christophe Lamar, vous avez assisté à cette audience où le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, est venu lui-même en personne batailler devant les magistrats.
Oui, on l'attendait en vedette américaine. Jean-Michel Aulas n'a pas fait mentir sa réputation. Pugnace, éloquent, la voix claire et forte, le président de l'Olympique lyonnais détaille son parcours. Sa reprise du club en 1987, ses succès en championnat, sa place sur l'échiquier européen. Tout cela est aujourd'hui menacé. Alors il est impatient de parler. Il tapote nerveusement sur son stylo sur la table, tout en se penchant vers son avocat, puis s'adresse au juge. Il dit... Je suis consterné qu'on en soit à se demander si on peut reprendre ou non. Oui, on peut reprendre. Je ne comprends pas pourquoi cela pose problème. Assis en face de lui, le directeur général de la Ligue, Didier Quillot, encaisse un premier coup du patron de l'OL. Tu es jeune dans la fonction, Didier, comme s'il voulait insister sur son manque d'expérience. Les mains jointes, les cheveux soigneusement plaqués en arrière, Didier Quillot le regarde droit dans les yeux. Cela fait 5 ans que je suis là, et lorsqu'un président de fédération dit que les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent se terminer, il n'y a pas de débat. Des débats justement, il y en a eu pendant 3 heures durant. Amiens et Toulouse ont eux aussi plaidé leur cause devant le juge Bertrand d'Acosta. Pour eux, la relégation est une injustice puisque le championnat a été interrompu avant son terme. Un magistrat manifestement intéressé et curieux de comprendre ce qui déchire autant la famille du football français. Il devrait rendre son ordonnance lundi ou mardi prochain.
Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. Des applaudissements pour finir. Des applaudissements pour Guy Bedos à la sortie de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris, au passage du cercueil de l'humoriste qui est décédé la semaine dernière. Des obsèques auxquelles ont assisté de très nombreuses personnalités. On retient les larmes et les bravos de son ami Muriel Robin et les souvenirs de ses amis Michel Boujna ou encore Jean-Michel Ribes.
Je crois que c'est nos fous rires qu'on avait dans sa maison en Corse et je pense que les fous rires sont immortels. C'était lui qui disait les choses les plus fortes et les plus gonflées et les plus provocantes et les plus... hors de la ligne, seulement il avait un génie, c'est qu'il était irrésistiblement drôle. Donc ses ennemis étaient désarmés et ça passait. Et puis il y avait une tendresse derrière tout ça. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas là aujourd'hui avec lui. Ce qu'il y a de certain en tout cas, c'est qu'il reste avec moi et que tout ce qu'il a dit, écrit et tout ça, il reste avec moi.
Jean-Michel Ribes avec Angèle Châtelier. Un hommage à Guy Bedos sera rendu lors de la prochaine soirée des Molières. Elle aura lieu le 23 juin, retransmise sur France 2 avec Europe 1. Cérémonie un peu spéciale parce que sans public ni maître de cérémonie et sans les traditionnels remerciements des lauréats. On y revient à 19h.